Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 4 août. Ben oui, l'été avance tranquillement avec du beau temps.
Très tranquillement.
On l'espère que ça aille tranquillement.
Ben oui, ben vous avez reconnu, je suis avec mes complices, Yvan et Marie.
Bonjour, Michel.
Oui, bonjour, Michel.
Et il faut que j'en profite aujourd'hui, hein, parce que je vais les perdre pour quelques semaines.
C'est pour ça qu'on veut que l'été progresse pas trop vite.
Eh bien, aujourd'hui, on vous parle, comme toujours, de voyages, de nature, de science. Et plus particulièrement, Marie?
Moi, je vais vous parler dans un premier temps de la grande muraille de Chine qui est menacée. Et je vais vous donner aussi des conseils pour voyager seul. Et dans la deuxième partie d'émission, 5 villes portuaires à visiter en Corse.
Et de mon côté, en première partie, je vais vous faire une réflexion autour d'un élément naturel qui s'appelle la lumière bleue.
Oh!
Et par la suite, je vais vous parler d'une de mes idoles vraiment, qui est Clara Hughes, qui est allée prendre une marche. Mais c'est Clara Hughes.
C'est une marche particulière.
C'est ça. Alors toi, Michel?
De mon côté, je vais vous parler des herbivores, les grands herbivores. Vous savez qu'ils sont menacés. On en a parlé à différents moments, particulièrement du rhinocéros, mais il y en a d'autres aussi qui sont menacés. Puis, je vais vous amener du côté de la mer morte qui est en train de porter son nom. Hein, malheureusement, la mer morte qui est en train de disparaître. Et un projet pour essayer de la renflouer. Alors, on a encore plein de choses à vous dire. Alors, vous restez avec nous, hein?
Alors, la grande muraille de Chine est menacée. C'est un reportage d'Yvan Côté, publié sur le site iciradiocanada.ca le 13 juillet dernier. Elle est sans contredit l'une des plus grandes réalisations humaines de l'histoire. Construite pour défendre un empire, la grande muraille de Chine a aujourd'hui besoin d'être elle-même défendue. Selon une étude officielle du Parti communiste, 30 % de la partie construite lors de l'époque Ming, il y a environ 500 ans, la portion la plus célèbre de la muraille, a complètement disparu. La situation pourrait encore se détériorer si rien n'est fait, prévient Dong Yaoui, je m'excuse pour mon accent, le vice-directeur de la Société de la muraille de Chine. La muraille est comme un être humain, avise le spécialiste, qui rédige depuis quelques mois un livre sur l'histoire militaire et architecturale du monument. Selon lui, la muraille est malade et personne n'en prend soin. C'est une catastrophe.
Et qu'est-ce qui a causé une telle catastrophe?
Au cœur du problème, la construction de dizaines de routes et de voies ferroviaires dans le pays, les catastrophes naturelles, mais aussi le pillage. Dans les années 60, 70 et 80, on parle des années 1900, bien sûr, des milliers de résidents le long du mur ont utilisé des pierres de la gigantesque structure pour construire leur maison. Ces vols à répétition ont engendré des villages où le quart des résidences viennent de la muraille située sur une montagne à proximité. Nous n'avions pas le choix, raconte un villageois. Nous étions pauvres et c'était les seuls matériaux disponibles pour construire. Il faut aussi se rappeler que lors de la Révolution culturelle, le gouvernement nous encourageait à nous débarrasser de tout ce qui représentait notre passé. La muraille faisait partie de notre héritage. Alors, on ne se sentait pas coupable de la détruire. C'est assez étonnant. Si ce phénomène a disparu avec la prospérité de la Chine, un autre fléau, tout aussi inquiétant, a depuis fait son apparition dans les campagnes. Les collectionneurs et amateurs de la muraille peuvent dorénavant se procurer des pierres pour à peine 7 $ l'unité sur le marché noir. Certaines pièces qui ont été engravées par les soldats de l'époque ont une grande, très grande valeur historique.
Il y a probablement quelques faux aussi dans ce
Probablement. Cas. D'après Dong Yaoui, le gouvernement doit faire plus pour protéger la structure. Les pénalités sont pratiquement inexistantes, malgré la réglementation qui permet de donner des amendes de 800 $. Il pense que la population doit aussi contribuer à sauver ce que ses ancêtres ont mis 2000 ans à construire. Il suggère d'embaucher des villageois dans chacune des municipalités, des anges gardiens qui aviseraient les autorités lorsqu'il y a du pillage ou lorsqu'une partie du monument risque de s'effondrer. Selon une évaluation faite par son organisme, à peine 8,2 % des 21 000 kilomètres de la Grande Muraille est en bon état et ressemble à l'image parfaite que les gens se font de la structure.
Vous savez, on a dit et on a répété qu'on pouvait voir la Grande Muraille de Chine. C'était une des seules structures qu'on pouvait voir de l'espace.
Oui.
Ça proviendrait de M. Armstrong, qui était sur la Lune apparemment.
Oui.
Donc, ça s'est répété. J'ai même écrit dans un livre parce que j'ai répété ce que j'avais entendu.
Uh-huh.
Et ayant été à la Grande Muraille de Chine, je mets en doute cette assertion.
L'affirmation.
Ben oui, parce que la muraille a été construite avec la pierre qu'on trouve sur le terrain alentour. Donc, elle est exactement de la même couleur.
Oui, oui.
Ah, donc, là, quand vous la voyez serpenter en montagne, vous la perdez pratiquement de vue.
Oui.
Donc, comment pourrait-on la voir de l'espace?
Alors, on réclame...
C'est une belle légende.
On réclame une photo satellite.
C'est joli.
Alors, merci. On demande un astronaute pour nous en parler.
Oui, c'était donc un texte d'Yvan Côté, publié sur le site ici-radio-canada.ca le 13 juillet. Alors, sur un thème un peu plus léger, voici maintenant des conseils pour voyager seul. Un texte de Catherine Bergeron et Julia Auriot, publié sur le site coupdepouce.com le 22 juillet. L'équipe de Coup de pouce compte plusieurs voyageuses aguerries. Elles partagent leurs trucs pour réussir un voyage en solo. Des conseils judicieux pour toute personne seule, mais tout particulièrement pour les femmes qui voudraient voyager seules. Le premier conseil, oser. Le meilleur conseil pour voyager seule est de ne pas avoir peur. Une fois qu'on a fait un voyage en solo, on se rend compte que ce n'est pas si pire que ça. Si on reste prudente, qu'on évite de se retrouver dans des situations dangereuses, en plein stationnement souterrain à minuit, par exemple, il n'y a pas de raison de s'empêcher de voyager parce qu'on est seul. Vous avez peur de la solitude? Sachez que les rencontres se font beaucoup plus facilement que si on voyage accompagné. Planifiez modérément. Avant de partir, on s'informe pour avoir une très bonne idée de ce qu'il y a à voir dans le pays où on va. Trouver des adresses d'hébergement qui nous plaisent, vérifier les moyens de transport disponibles. Mais sur place, on se garde la latitude nécessaire pour changer de plan quand on le souhaite. C'est le principal avantage de voyager en solo, décider de ce qu'on va faire selon notre humeur et nos envies du moment. Se protéger des vols éventuels, se faire voler ses affaires quand on est en voyage n'est jamais une expérience agréable, mais ça l'est encore moins lorsqu'on est seul. Alors, on redouble de vigilance. Dans certains pays, on suggère d'ajouter un mousqueton à la fermeture éclair de son sac à main, éviter les sacs ouverts, par exemple, et si possible, de prendre un sac en bandoulière qu'on peut mettre même sous le manteau. Apporter beaucoup de lecture. Dans l'avion, le train, au resto, le soir avant de dormir, on aura beaucoup d'occasions pour lire. Avec une bonne dose de distraction, on ressentira moins le fait qu'on est seul. Voyager léger. Souvent, on n'aura personne pour surveiller notre sac ou jeter un œil sur nos affaires. Si on a quatre sacs différents ou s'ils sont trop encombrants, ça peut éventuellement nous empêcher de faire certaines activités. Se fier à son instinct, finalement. On se sent mal à l'aise dans une situation, même sans savoir pourquoi. On quitte sans se poser de questions. Plus que jamais, on doit écouter sa petite sonnette d'alarme intérieure. Voilà.
Attention au sac à dos particulièrement.
Oh oui,
hein, parce qu'avec un exacto,
oui.
Vous apercevrez même pas que votre sac a été découpé.
Tout à fait, tout à fait. Voilà, c'était 6 conseils pour voyager seul de Catherine Bergeron et Julia Auriot, publié sur le site coupdepouce.com le 22 juillet.
Il semblerait que les grands herbivores sont menacés. C'est Mathieu Perrault qui nous en parle dans la presse du 10 mai. Bon, les grands herbivores, ce sont les éléphants, les hippopotames, girafes, buffles et étonnamment, rhinocéros. On ne penserait pas que c'est un herbivore. Hein? Ils ont aussi en commun qu'ils sont menacés de disparition. Principalement à cause des braconniers, on en a parlé il y a quelques semaines, et du morcellement de leur territoire par l'homme aussi. Près des deux tiers des grands herbivores sont menacés d'extinction. Et 15 % c'est beaucoup, hein, ont pratiquement disparu à l'extérieur des jardins zoologiques. Et ça, c'est la conclusion d'une nouvelle étude parue de début mai dans la revue Science Advances. Donc, c'est sérieux, hein? Et ça prédit des paysages vides d'ici quelques décennies dans certaines régions de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est. Mm-hmm. La plupart des grands herbivores vivent dans des pays en voie de développement, où ben, l'État est plus faible et la croissance économique et démographique est plus forte.
Mm-hmm.
Alors, la situation est critique. Et ce n'est pas seulement une question de grands animaux qui séduisent les riches occidentaux. C'est des safaris, mm-hmm. c'est autre chose que ça. Les grands herbivores jouent un rôle crucial dans plusieurs des écosystèmes où ils sont présents. Leur disparition pourrait gravement perturber d'autres espèces végétales et même l'agriculture. Et ça, c'est un biologiste sérieux qui nous en parle. Et l'étude de ce biologiste américain fait le point sur la taille et la vitalité de 74 espèces d'herbivores de plus de 100 kg. Et près de la moitié de ces espèces vivent en Afrique. Il y a 12 espèces qui sont menacées. Et plus du quart vivent en Asie du Sud-Est. Ils sont toutes menacées.
Mm-hmm.
La seule espèce à risque à vivre en Occident, c'est le bison européen, qu'on connaît très peu. C'est un proche cousin, en fait, du bison américain. Il n'en restait que 14 à un certain moment dans des jardins zoologiques. Et apparemment, on est en train de reconstituer l'espèce. La population sauvage a été décimée, je parle du bison, au début du 20e siècle, avant d'être réintroduite dans les années 50. Le bison européen est maintenant classé vulnérable et non plus en danger. 4 espèces de grands herbivores vivent au Canada. Je ne sais pas si vous les connaissez. Il y en a un qui est peut-être un peu moins connu, le bœuf musqué dans l'Arctique.
Okay.
Et l'orignal, le cerf et le caribou. Le chevreuil n'est pas inclus dans la liste. On fait la différence entre chevreuil et cerf. Hein?
Okay.
Parce que la femelle ne franchit pas la barre des 100 kilos. Et on parle des herbivores plus. De plus de 100 kilos. La grande majorité des grands herbivores font l'objet de chasses par l'homme. Mais c'est le braconnage visant seulement certaines parties du corps des animaux. On pense à la défense des éléphants, autre chose. Et la corne de rhinocéros, entre autres choses. Et c'est le braconnage qui est le plus dommageable, suivi par l'extension des terres agricoles, donc la déforestation.
Mm-hmm.
La chasse traditionnelle qui vise à nourrir les familles des chasseurs n'est généralement pas responsable du risque d'extinction, parce que ça représente véritablement une très petite partie. Ceux qui chassent pour se nourrir, ben, chassent pas en grande quantité.
Mm-hmm.
La valeur de leur récolte, des grands herbivores, ça intéresse de plus en plus le crime organisé parce qu'ils ont davantage de moyens pour éviter l'autorité de l'État et aussi des moyens pour se déplacer, hein, de plus en plus facile. Évidemment, dans les États qui ont fait faillite, autrement dit, là où il n'y a plus d'État, on parle particulièrement de l'Afrique de l'Est, toute chasse est problématique parce qu'il n'y a pas de surveillance.
Est-ce qu'il y a des progrès sur le plan de la survie?
Il y a peu de progrès. Dans les dernières décennies, on a amélioré la protection du rhinocéros blanc, ce qu'on appelle, c'est une erreur, c'est en fait en anglais, c'est wild rhino. Mm-hmm. Et il était au bord de l'extinction. Et l'espèce se porte mieux maintenant. Mais comme il n'y a que 20 000 rhinocéros blancs, toute poussée de braconnage peut faire basculer les choses. Le rhinocéros noir, lui, en Afrique de l'Est, a aussi connu une amélioration de sa situation en Zambie, en Namibie et en Afrique du Sud. Les extinctions actuelles peuvent être considérées comme une reprise de la disparition des méga-herbivores. Méga-herbivores, c'est, entre autres choses, le mammouth.
Mm-hmm.
On parle d'une tonne à ce moment-là, lors de l'apparition des premières civilisations humaines. On vient de voir s'éteindre 2 espèces de rhinocéros au Cameroun et au Vietnam. Si on ne finance pas mieux les parcs nationaux où ils vivent et qu'on ne parvient pas à diminuer radicalement la demande en ivoire, les cornes aussi, et autres parties du corps, notamment en Chine, ben, on va voir d'autres extinctions. Ça, c'était Mathieu Perrault qui nous en parlait. Dans un autre domaine plus optimiste, c'est Francine Kreiss, ça provient de Paris Match, transmis dans la presse. C'est à propos des abeilles. Alors que les pesticides les menacent, ça aussi, on en a parlé beaucoup récemment, menace d'une disparition, hein, les abeilles sont capables d'identifier à 98% certaines molécules cancérigènes et de livrer un diagnostic en quelques instants. L'idée est d'utiliser les abeilles pour diagnostiquer avec précision et à un stade précoce une grande variété de maladies. Une fois le diagnostic établi, les abeilles sont libérées et retournent après à la ruche. Alors, comment on peut dresser des abeilles? Ben, L'entraînement consiste à les orienter vers une odeur spécifique, par exemple l'odeur dégagée par un cancer, puis à les nourrir d'une solution d'eau et de sucre. Ainsi, elles associent l'odeur à la récompense, ben, le même principe
comme
que le réflexe de Pavlov, dans le fond. C'est exactement la même chose. Alors, ils sont formés pour... ils sont transférés dans une bulle de verre pour être opérationnels. Quelles maladies peuvent être détectées? Ben, les recherches ont démontré que les abeilles peuvent cibler les composés chimiques de la tuberculose, le diabète, le cancer des poumons, de la peau, du pancréas. Est-ce que c'est fiable? On dit que c'est fiable de 90 à 98. Mais des recherches avec les labos doivent être effectuées sur un échantillon plus large. C'est un outil peu coûteux et qui peut être utilisé, bien sûr, dans des pays en voie de développement. Il y a d'autres espèces animales, je termine là-dessus, qui pourraient également être entraînées. On parle des rats africains dans le cadre d'un projet. Et certains laboratoires ont employé des guêpes, mais leur comportement peut être plus agressif. Ouais. Donc, des abeilles...
J'aime mieux qu'on garde les abeilles, je pense.
J'aime mieux qu'on garde les abeilles. C'était Francine Kreiss qui nous en parlait. C'était retransmis dans la presse du 2 juin.
Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate comme nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, similaire et sans le dauphin. Cette petite cantate force le dauphin, n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes courent et faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile, similaire et sans le dauphin. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà, et je reste malhabile face à le dauphin. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. Similaire et si sans le dauphin. Similaire et si sans le dauphin. Oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile, cette cantate sans toi. Une petite prière, da 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 da, avec mon cœur pour la faire, et mes dix doigts. Une petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Similaire, si sale dauphin. Similaire, si sale dauphin. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Similaire, si.
Ah, Marie, tu peux continuer à chanter, Marie. Ça allait bien, c'est très harmonieux.
Puis elle chante dans une chorale.
Mais oui.
Alors, c'était la cantate.
La petite cantate
de Barbara. Oui. On en fait référence dans l'article que je vais vous lire. C'est un article un peu introspectif, vous allez voir. Que je devrais vous lire, en fait, en fin de journée, mais c'est le matin. Alors, imaginez-vous que le soleil...
On pourrait écouter la reprise à 21h.
Oui, effectivement. Le soleil se couche présentement. Donc, l'heure bleue du Nord, c'est un article écrit par Monique Durand et publié le 1er août 2015 dans Le Devoir. L'heure bleue n'est pas encore la nuit. C'est l'heure crépusculaire que certains appellent l'heure magique ou l'heure divine. Quand le feu du jour vient de s'éteindre et que reste dans l'horizon une lumière incandescente bleu-mauve, elle allume le ciel et fait flamber l'eau des rivières et la pierre des montagnes comme un vaste feu de rocher, écrit une poète inoue qui vit à Mingan sur la côte nord. C'est l'heure bleue des ciels du nord, celle d'où les humains s'élèvent et touchent à ce qui leur est. Et touche à ce qui leur semble être un peu d'infini, moment de rentrer en soi et de contemplation. L'heure la plus glorieuse, celle qui comble l'espérance infinie, l'infini attente des hommes, écrit Gabriel Roy après un voyage à Fort Chimo, aujourd'hui Coudjouac, dans l'Ungava, la partie la plus septentrionale du Québec. Cette heure sans pareil ouvre des perspectives nouvelles à l'horizon de la conscience, poursuit-elle dans son livre « La montagne secrète ». pour la célèbre écrivaine née au Manitoba, ces instants du soir sont la métaphore d'un or qui sauve les humains d'eux-mêmes et les rapproche des mystères de l'existence, leur fournissant une sorte de réponse aux grandes questions existentielles qui les taraudent depuis que le monde est monde, la vie, la mort, l'amour, la descendance. Expérience du sublime que cette heure-là, comme les scènes d'enfants de Schumann que l'on écoute présentement en arrière-plan.
Et c'est très beau.
Ou la petite cantate qu'on a entendue tantôt chantée par Barbara, qui nous entraîne dans un ailleurs indéfinissable.
Est-ce qu'on peut avoir une heure bleue sans nécessairement être dans le Nord?
Nous avons tous, toutes, nos musiques sublimes et nos heures bleues. Pour les uns, conversation avec la profondeur entre soi et l'univers. Pour les autres, lancer vers le divin ou un divin, j'imagine. Pas étonnant que cette heure de recommencement du monde soit celle des confidences, la pause propice aux remémorations, aux bilans, aux aveux. C'est souvent le moment que l'on choisit pour prendre l'apéritif devant la sphère en fusion qui descend dans l'horizon. Moment de coude à coude des contemplateurs de la beauté, des assoiffés de la grâce. On trinque à la vie, à l'amour. Comme le bon vin, l'heure bleue est faite pour être partagée, parfois en silence. Je vous amène alors à Schefferville, ville minière sur la frange du 55e parallèle au nord du Québec. Y vivent une majorité d'Autochtones, des Inuits, des Naskapis et une poignée d'autres pour un total d'environ 1000 personnes. Schefferville est un désert d'épinettes rabougries et de pierres, troué de lacs et de rivières. C'est en cette contrée que se séparent les eaux, mais non pas en deux, mais en quatre, coulant à l'ouest vers la baie du Tson, à l'est vers l'Atlantique, au nord vers la baie d'Ungava et au sud vers le golfe du Saint-Laurent. Comme les quatre parties d'un vaste cœur formé par la péninsule du Labrador. Là, à la tombée du jour, derrière l'hôtel royal, les hommes et les femmes et les enfants se rassemblent, toute affaire cessante pour voir tomber le soleil à l'heure bleue. Quand il fait froid, certains restent dans leur véhicule qu'ils placent droit devant la boule de feu. Ils arrêtent tout pour regarder, juste pour sentir ce lieu presque hors du monde, planté au centre des ondes minérales et des confluents liquides dégageant une titanesque énergie. Là, en ces instants bleutés, ils ont le sentiment que le temps s'arrête, qu'ils cessent de fuir. Ils le tiennent dans leurs mains, moment de présence sans pareil, les deux pieds bien plantés dans la poussière d'éternité.
Est-ce qu'il y a des équivalents de cette heure bleue ailleurs dans le monde?
Effectivement, des rituels du soleil couchant ont lieu un peu partout dans le monde, et les heures bleues n'adviennent pas seulement au Nord. Elles sont parfois roses, mauves, rouges, mettant ceux et celles qui les vivent dans un état d'anesthésie étrange, avait écrit le journaliste et écrivain Henri de Puyjalon il y a plus d'un siècle. L'histoire de cet homme qui allait devenir une figure importante de la Côte-Nord est étonnante. Né dans une famille noble de France, il avait fréquenté le milieu des cabarets parisiens. On raconte qu'il fut l'un des fondateurs du mythique Chat Noir dans Montmartre. Un jour, il a une sorte de révélation. Il décide de s'installer dans le nord du Québec avec son épouse. En 1894, dans ses récits du Labrador, il écrit « Près du monde, j'appartiens au scepticisme le plus hideux. Loin de lui, tous mes doutes se dissipent et je deviens d'une candeur qui vous toucherait s'il vous était possible d'en sonder la profondeur. Devenir un autre soi-même, plus libre peut-être, voilà ce qu'il était venu assouvir dans son exil de vent, de neige et de glace au pays de l'heure bleue. La lumière qui allait disparaître, dit encore Gabriel Roy dans le livre « La montagne secrète », jetait de l'or, des glacis de rouge, des carmins, des verts acides, des jaunes ensoleillés. D'un coup jaillissait le vrai, la vie était visible comme le jour. L'heure bleue semble rapprocher la vérité de sa vérité à soi. « Je suis aveugle, pourtant j'ai vu », écrit Joséphine Bacon, une autre poète Inou, née aussi sur la côte nord. C'est l'heure bleue. Celle qui pourrait être la dernière, disent parfois ceux et celles qui l'éprouvent. Il serait prêt, là, le regard vissé dans l'horizon de saphir à s'envoler. Annulé dans l'instant et dans ce territoire abstrait qui ressemble peut-être au paradis des croyants, peut-être aussi au néant ou à l'outre-vie des non-croyants. C'était des extraits de l'article « L'heure bleue du Nord », article écrit par Monique Durand et publié le 1er août dans Le Devoir.
Et accompagné par Schumann.
Accompagné par Schumann.
Alors, vendredi dernier a eu lieu la première lune bleue depuis août 2012. Mais quelle est la véritable signification de cette lune bleue? En fait, il ne s'agit pas de la couleur de l'astre, mais bien de sa fréquence au cours du même mois. Lorsque deux pleines lunes ont lieu le même mois, la deuxième porte le nom de lune bleue. Phénomène rare en astronomie, deux pleines lunes ont eu lieu en juillet, soit une le 2 et la seconde le 31. L'année 2015 sera donc une année avec 13 pleines lunes au lieu de 12, comme c'est habituellement le cas. Puisque la lune est pleine chaque 29,5 jours, cet événement est possible seulement une fois tous les 2 ou 3 ans, de là son importance. Et c'est encore plus rare de trouver une année où il y a deux lunes bleues, et ça va être en 2018. En janvier, il y en aura 2, et en février, comme en février, il y aura 28 jours, la suivante aura lieu le 2 mars, et il y en aura une autre le 31.
Je vous ai parlé des abeilles tout à l'heure. Quelque chose d'assez particulier. Aux États-Unis, la surmortalité des colonies d'abeilles a atteint 42 % en 2014. En France, 30 % disparaissent chaque année. Il y a urgence, hein?
Oui.
Alors, Green Brain, c'est un projet qui a été mené par un chercheur qui a implanté un modèle numérique de cerveau d'abeille dans un robot. Mmh. Un robot volant. Et plus grand qu'une abeille pour le moment, il est équipé de caméras lui permettant d'identifier des couleurs afin de distinguer les fleurs. Donc, c'est assez extraordinaire. Hein?
Il pourrait s'aimer.
Absolument. En fait, c'est ça le projet, étant donné la grande disparition. Ouais. Les abeilles sont en train de disparaître. Hein? C'est très inquiétant. On avait parlé précédemment, oui. Donc on fait un lien.
Oui.
Mm-hmm. Ben, restez avec nous. Hein? On continue encore après.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors, je vous présente maintenant 5 villes où jeter l'ancre en Corse. C'est un texte de Philippe Beauchemin publié le 25 juillet dernier dans la Presse Plus. Michel, je sais que tu es allé en Corse,
oui.
Déjà, alors tes commentaires sont les bienvenus. Si la Corse appelle les randonneurs, les cyclistes et les vacanciers à la recherche de belles plages, elle s'avère aussi une excellente destination pour ceux qui aiment les villes portuaires. Ancrée entre le bleu de la Méditerranée et le rouge des hautes montagnes de granit, elles ouvrent leurs ports aux visiteurs en provenance de la mer ou de la route. En longeant la côte ouest en voiture, du sud au nord, voici 5 arrêts où histoire, paysages fabuleux, art et gastronomie se côtoient. On commence par Bonifacio. C'est d'une blancheur immaculée sur un arrière-plan turquoise, Bonifacio surplombe la Méditerranée, le nez pointé vers la Sardaigne. Si la montée vers la vieille ville fortifiée est abrupte, elle permet des arrêts photographiques indiscutables. C'est tôt le matin qu'il faut visiter cette cité médiévale aux rues étroites et aux passages couverts de fleurs. Après la visite du cimetière marin, un incontournable, la sérénité qui s'en dégage apaise les sens, et une fois redescendu au port, il est impératif de faire l'excursion en bateau. Tanguant sur la Méditerranée, on se sent minuscule au pied de l'imposante muraille de calcaire qui tient lieu de podium à la plus belle ville de Corse.
Il faut absolument faire la découverte de Bonifacio par la mer. Mm-hmm. C'est absolument fondamental parce que Bonifacio, les maisons sont véritablement imbriquées dans la falaise et on se demande, lorsqu'on est en mer, comment elles font pour tenir.
Ah, c'est intéressant. Alors, on s'en va à Ajaccio. Maintenant, délaissons l'auto, car c'est à pied que se visite la commune qui a vu grandir Napoléon et qui est devenue depuis la capitale de l'île. Tôt le matin, dans la rue piétonne Fesch, on s'invite au palais du même nom, où se trouve le plus grand musée corse, où l'on peut voir 450 tableaux de la Renaissance au postmodernisme, et la bibliothèque municipale. Puis, on prend la direction de la place Maréchal Foch pour y retrouver un marché public où éleveurs et agriculteurs viennent vendre leurs produits frais. En après-midi, on arpente les rues anciennes à la recherche de cette lumière et de ces passages exigus qui ont inspiré le peintre Matisse il y a plus de 100 ans. Le tout se termine par un pique-nique sur la plage, les pieds dans la mer et les yeux rivés sur les montagnes de l'arrière-pays.
Et ceux qui vont en bateau de croisière, vous arrivez exactement au centre d'Ajaccio.
Ah oui.
Pas besoin de prendre de tour ou quoi que ce soit, vous débarquez, vous êtes en plein dans la rue.
En plein dans le mille. Le golfe de Porto maintenant, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le golfe de Porto, avec ses calanches et sa réserve de Scandola, mérite les frousses vécues sur la route étroite qui nous y mène. Maupassant écrivait à juste titre en 1880, « Soudain, sortant de là, je découvris le golfe de Porto, ceint tout entier d'une muraille sanglante de granit rouge reflétée dans la mer d'azur. » À la marine de Porto, on prend la balade en mer pour admirer la beauté de la réserve naturelle de Scandola, sa fonte marine et ses rochers, nés d'éruptions volcaniques. Puis, sur la route vers Calvi, un arrêt obligé à la petite plage de Boussaglia, l'une des plus belles de Corse. Là, en fin de journée, le soleil tombe dans la mer alors que le rouge de la pierre des calanches réchauffe le paysage.
Les calanches, c'était absolument à voir. C'est merveilleux. Autant par la route en haut que par le bord de mer. Parfois, là-bas, on dit calanque au lieu de dire calanche. Ah. On dit les deux.
Oui?
Oui.
Alors, maintenant, on s'en va à Calvi et à l'île Rousse. Deux voisines longtemps ennemies nous invitent en leur cœur. On visite d'abord Calvi, ancienne cité génoise, où les ruelles étroites de la vieille ville, de même que le port de Plaisance, vivent paisiblement sous la surveillance de la haute citadelle, point de vue magnifique sur la baie calvienne, qui décrit un arc de cercle parfait. En basse ville, on privilégie la rue Clémenceau pour les achats de produits du terroir et la traverse de l'église Santa Maria au lieu de rassemblement des Calvésies à l'heure de l'apéro. Puis, direction l'île Rousse, où les terrasses et les cafés de la place Paoli, du nom de son fondateur, aimantent nos pas, tout comme le marché des Halles à l'architecture inspirée d'un temple grec avec ses immenses colonnes. Et on termine la journée sur la promenade de la Marinella qui longe la plage municipale et son sable blanc.
Paoli, c'est un nom que vous entendez partout lorsque vous promenez en Corse.
Les tremblés de la Corse. On finit Bastia, donc. La traversée de l'épine dorsale du Cap Corse réalisée, la haute montagne s'épuise au pied de Bastia, ville portuaire tournée vers l'Italie. La Dolce Vita transcende la basse ville où café et gelato se dégustent à l'ombre des palmiers, de la longue place Saint-Nicolas ou à la place du marché. Les menus aussi se nourrissent à même la cuisine italienne et la pizza, de même que les pâtes du petit restaurant Atana, remporte la palme. D'autant plus que l'établissement est tenu par un Corse amant de l'Italie et qui rêve de visiter Rimouski. Une fois rassasié, on longe les quais du port pour emprunter le large escalier du jardin Romilleux et ainsi monter vers la citadelle construite par les Génois au 15e siècle, encore l'Italie, qui surplombe le port Bastien, coloré des voiles des bateaux venus y accoster pour une soirée.
Et si on a une chance, il faut aller faire le tour du Cap Corse.
Du Cap Corse?
Ah oui, c'est absolument phénoménal. Ça surplombe la mer. C'est la seule fois de ma vie où j'ai poussé un cri strident parce que je pensais que je passais par-dessus bord.
Ah oui.
Ah, véritablement.
Impressionnant.
Oui, très impressionnant.
Alors, c'était « Cinq villes où jeter l'ancre en Corse », un texte de Philippe Beauchemin, publié le 25 juillet dernier dans la Presse Plus.
Puis merci pour cette belle conversation. Oui. Moi, j'ai le goût d'y aller maintenant.
Alors, récemment, je vais parler de grands projets qui ont lieu dans le monde. La tour d'un kilomètre, vous vous rappelez, la tour d'un kilomètre en Arabie Saoudite, l'élargissement du canal de Panama, le plus gros bateau du monde. Maintenant, je vais vous parler du pipeline qui pourrait sauver la mer morte. La mer morte qui est en train de porter son nom. La géographie du Moyen-Orient est en train de changer sous nos yeux. Peu à peu, la mer morte disparaît. En à peine 30 ans, son niveau a chuté de 30 mètres. Et sa superficie a diminué d'un tiers. Et à ce titre, elle va perdre encore 120 mètres. Car la région, c'est un four. De 45 degrés à 50 degrés Celsius en été et seulement 100 mm de pluie par an. Alors, le petit bassin sud de la mer morte est dorénavant séparé du bassin nord. On le voit très bien par satellite d'ailleurs. Par endroits, la mer recule de 100 mètres par année. Certains hôtels qui étaient autrefois au bord de l'eau sont désormais à plus de 1 km du rivage. Pas très bon pour le tourisme.
Un
rivage qui devient inhabitable. Plus de 3000 affaissements de terrain sont recensés actuellement. S'en suivent des effondrements, des crevasses qui engloutissent toutes les infrastructures. Des zones asséchées sont couvertes de vasières nauséabondes et les terres sont arides et stériles. D'où la naissance d'un projet pharaonique.
Mais qu'est-ce que c'est que ce projet?
C'est le renflouement de la mer morte à partir des eaux de la mer Rouge, avec à la clé la fourniture d'eau potable et d'électricité aux riverains de l'axe entre les mers. Les riverains qui sont, il ne faut pas perdre de vue, les Israéliens, les Palestiniens et les Jordaniens, qui sont, ils sont condamnés à s'entendre pour trouver des solutions communes à leurs problèmes. L'idée d'un canal n'est pas nouvelle. En 2005, lors du Forum économique mondial en Jordanie, les trois pays riverains dont on vient de parler sollicitent l'aide de la Banque mondiale pour étudier sa faisabilité. 15 millions d'euros, et plusieurs études plus tard, un cabinet d'ingénieurs français rend sa copie en 2013. Il recommande la solution d'un transfert par pipeline depuis la mer Rouge. Un pipeline qui va courir sur 180 kilomètres. Pour transférer 2 milliards de mètres cubes d'une mer d'eau à l'autre à chaque année. Ça veut dire que c'est 17 fois la consommation annuelle de la ville de Paris.
C'est extrêmement impressionnant.
C'est très impressionnant. Et la conduite va alimenter au passage une usine de production d'eau potable, parce que c'est la conséquence de ça aussi. C'est sur la côte jordanienne de la mer Rouge que sera implantée la prise d'eau, à 140-150 mètres sous la surface, pour ne pas déranger les 400 espèces de poissons et les 200 variétés de coraux qui font la renommée du lieu pour les plongeurs. Par deux conduites de près de 5 mètres de diamètre, une station de pompage de grande capacité va engloutir 65 mètres cubes par seconde. 65 mètres cubes par seconde, c'est de quoi vider une piscine olympique en moins d'une minute. Impressionnant, hein?
Oui.
Pour supporter les pressions dues au pompage, les parois internes vont être doublées d'acier de 30 mm d'épaisseur. Vital pour les riverains de la mer morte, elle doit produire une eau potable destinée aux deux tiers à la Jordanie et le reste va abreuver Israéliens et Palestiniens. Donc, c'est fondamental pour eux. Située à une altitude de 350 mètres, l'installation va profiter D'un dénivelé de 275 mètres pour atteindre la puissance nécessaire. Enfin, c'est un canal de 25 mètres de large et de 4 mètres de profondeur qui va traverser les bassins d'évaporation industrielle. Avec des conséquences qui sont mal connues jusqu'à maintenant, car les eaux des deux mers sont d'une densité et de composition différentes. Donc, les sels qu'elles contiennent peuvent être extrêmement réactifs l'un avec l'autre. Donc, les scientifiques redoutent notamment la prolifération d'algues unicellulaires. Donc, c'est l'inconnu. Les travaux devront également affronter des difficultés techniques et naturelles. Les conduites seront constituées de plaques d'acier revêtues de polyuréthane à l'extérieur et d'un revêtement époxy à l'intérieur, évidemment pour les protéger de la corrosion. On parle d'eau salée ici. Il y a des usines sidérurgiques aussi qui devront être implantées à proximité pour faire le travail. Autre particularité qui va corser les travaux, c'est que la vallée où c'est situé, la vallée de la Rava, c'est une zone sismique très active qui est située le long de la faille du Levant. C'est une des failles majeures de notre planète. Et le prochain relâchement laisse craindre un mouvement de plus de 3 mètres, ce qui représente un séisme de plus de 7 de magnitude sur l'échelle de Richter.
Puis est-ce qu'on peut se protéger d'un danger comme celui-là?
Ben oui, parce que, évidemment, vous imaginez le canal. Pour enjamber la faille, plusieurs techniques sont envisageables. On peut installer des tuyaux en suspension à l'intérieur de fosses en béton. Ils peuvent également être posés hors sol, munis de raccords, de joints spéciaux qui permettent le glissement et la rotation des tubes pour les supporter. Ben, vous comprenez que quand on parle de projet pharaonique, c'est ce qu'on veut dire. Hein?
Oui, tout à fait.
Surtout dans ce coin-là de la planète. Mm-hmm. C'est hautement souhaitable qu'une fuite d'eau salée serait catastrophique pour les nappes souterraines d'eau douce qui sont situées sous le tracé. Donc, une surveillance de tous les instants est prévue, suivie en temps réel du débit, de la pression dans les canalisations. Il y a des vannes d'isolement disposées à intervalles réguliers qui vont se fermer automatiquement à la moindre anomalie. Une membrane étanche va être posée au fond de la tranchée pour contenir les petites fuites, parce que nécessairement, il va y en avoir. Hein. Enfin, le caractère enterré des installations sera une protection contre les actes terroristes
que l'on ne peut
écarter dans cette région,
surtout, on peut dire
tourmentée politiquement. Hein?
Oui.
Alors, malgré de nombreuses incertitudes scientifiques et un coût global exorbitant, on s'en doute, la première phase est d'ores et déjà lancée. Le 9 décembre 2013, des ministres d'Israël, de la Jordanie et de l'autorité palestinienne, qui sont entendus cette fois-là, signèrent au siège de la Banque mondiale à Washington un protocole d'entente considéré comme le lancement de la première phase du projet, qui est parfois appelé le canal de la paix. Donc, vous voyez que c'est un projet qui est amorcé. Hein? Et c'était David Humbert qui nous en parlait dans « Science et vie hors série ».
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ces blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ces blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs,
des grands roseaux mouillés.
Voyez
ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle est à bercer le long des golfes clairs. Il y a une chanson d'amour là-bas. Bercer mon cœur. Pour la vie.
Celle-là, je ne me risquerais pas de la chanter.
Une envolée, une
oui,
envolée.
Hein. Alors, c'était La mer, évidemment, de Charles Trenet,
oui.
Parce qu'on a parlé de la Corse,
oui.
Avec la mer qui l'entoure.
Et de la
on
mer
vient
mort.
De parler la de la mer,
mer
morte.
Mort, c'est ça. Ça a été fait en anglais par Bobby Darin, dans le temps, il y a très longtemps. Ça, je pense que ça s'appelait Beyond the Sea.
Mm-hmm.
Et il y a un film qui a été fait qui s'appelait La vie de Bobby Darin.
Mm-hmm.
Ça s'appelait Beyond the Sea.
Mm-hmm. Ah oui.
Ouf, de mémoire, hein, je n'ai pas fouillé pour chercher ça.
Quand même.
OK. Alors, moi, je vous amène à la montagne, alors. C'est un article qui s'intitule « La longue randonnée » de Clara Hughes. Puis comme je le disais en entrée, c'est vraiment une de mes grandes idoles. Article écrit par Gabriel Bellan et paru dans la presse du 28 juillet. Le 13 juillet dernier, Clara Hughes s'est levée à 4h30. Elle est sortie de sa tente, a fait bouillir de l'eau. Dans son café, elle a mis du beurre. Pour les protéines, dit-elle. Elle était seule dans le petit terrain de camping du parc Baxter dans le Maine. C'était vraiment magnifique. À 5h30, avec l'aube, elle est partie. 3 heures plus tard, elle était au sommet du mont Katahdin. Elle venait de terminer le Sentier des Appalaches, une longue randonnée de 3500 kilomètres de la Géorgie au Maine. L'aventure lui a pris 136 jours. Cette marche, ça a été fantastique, lance l'ancienne athlète olympique au bout du fil. Ça m'a permis, pour la première fois de ma vie, de vraiment découvrir qui j'étais. Ce n'est pas rien. 6 fois médaillée olympique, unique Canadienne à être montée sur le podium à des Jeux d'été et d'hiver, l'ancienne cycliste et patineuse de vitesse vit une retraite pleine d'aventures. Passer ses journées dans un bureau? Vivre écrasée par la nostalgie des exploits passés? Très peu pour elle. Je me suis vraiment réalisé dans ma carrière, mais dans le sport d'élite, on vit tout le temps sur l'horaire de quelqu'un d'autre. L'horaire de l'entraîneur, l'horaire de l'équipe. Durant cette randonnée, j'ai vécu selon mon horaire. Ça a été ma randonnée du début à la fin. Hughes, 42 ans, a cessé la compétition après les Jeux de Londres en 2012. Pendant 12 ans, la native de Winnipeg a vécu au Québec. Mais il y a 2 ans, elle a quitté sa maison de Glen Sutton dans les Cantons de l'Est pour aller vivre à Canmore, en Alberta. Je pense qu'on va être ici un bon moment. Mon mari et moi, nous sommes des nomades, alors je ne sais pas ce qui nous attend. Ce qui est certain, c'est que parfois je m'ennuie de la nature et de la beauté que je côtoyais à Glen Sutton. Sa nouvelle vie de grande athlète retraitée est émaillée de responsabilités et d'engagements. Clara Hughes a un nom. Elle est décorée de l'Ordre du Canada. Elle est une personne reconnue. Mais elle n'arrivait pas à concevoir la vie après le sport sans aventure. Vivre des aventures, pour moi, c'est essentiel. C'est peut-être une journée dans la nature, mais l'idée, c'est de sortir et de vivre quelque chose de différent. En novembre, elle s'est assise avec son mari, Peter Guzman. Les deux avaient 6 semaines sans engagement à leur agenda. Ils ont décidé d'aller randonner en plein hiver sur le Sentier des Appalaches, un parcours mythique mis en place il y a 80 ans. Chaque année, plus de 2000 marcheurs tentent de parcourir les quelques 3500 kilomètres du sentier. Le but au départ était de partir 6 semaines sur le sentier en vue de me préparer pour une autre grande randonnée, le Pacific Crest Trail, raconte Hughes. Au sujet de cet autre sentier de longue randonnée situé sur la côte ouest, c'est un sentier qui a été rendu populaire par le livre et le film Wild, un film de Jean-Marc Vallée avec Reese Witherspoon. Mais après ces 6 semaines, j'ai décidé que j'allais finir le sentier des Appalaches. Je ne pouvais pas faire autrement. Clara Hughes est retournée sur le sentier, seule cette fois. Elle a mis 136 jours pour parcourir les 3500 kilomètres. Elle aurait pu le faire plus rapidement. D'ailleurs, durant son passage sur le sentier, le record de vitesse a été battu. Scott Jurek, une légende de l'ultramarathon, a mis 46 jours, 8 heures et 7 minutes. Là, dans ce domaine-là, on compte les heures et les minutes, pour se rendre de la Géorgie au Maine.
Alors, compte tenu de son passé d'athlète, qu'on connaît bien, est-ce qu'elle considère ce genre d'aventure comme avec un esprit de compétition?
Elle nous répond, « J'aurais pu me pousser davantage, aller plus vite, mais ce n'était pas le but. Je voulais m'arrêter pour profiter de tout, des animaux que je croisais, des paysages et même des sources d'eau. Ces sources d'eau dans les montagnes des Appalaches sont vraiment une beauté de la nature. » J'ai croisé Scott Jurek durant ma randonnée et honnêtement, il avait l'air misérable. Il avait l'air de souffrir. Je comprends tout à fait pourquoi il a fait ça, mais ce n'est pas ce que je cherchais. Durant sa randonnée, Clara Hughes se sentait si loin de la compétition qu'elle n'a même pas révélé qui elle était aux nombreux autres randonneurs qu'elle a croisés. Ce sont surtout des Québécois qui l'ont reconnue. Dans les montagnes blanches au New Hampshire, il y avait vraiment beaucoup de Québécois. C'était dans le temps de la Saint-Jean-Baptiste. Il me disait, « Mais tu ressembles vraiment à Clara Hughes. » J'étais cuite, je devais avouer que c'était moi. Cette aventure lui a permis de se retrouver seule dans la nature. C'était quelque chose qui lui avait manqué durant sa carrière d'athlète. C'est difficile de se sentir proche de la nature quand on fait des tours sur un anneau à l'intérieur. Le vélo me permettait d'être à l'extérieur, mais il y a toujours des voitures. Là, j'étais seul dans le bois. Ça m'a permis de me retrouver face à moi-même, de vraiment voir qui j'étais.
Est-ce qu'on connaît ses prochains projets?
Elle rêve maintenant de parcourir un autre sentier de longue randonnée, le Continental Divide Trail. Après l'Appalachian Trail et le Pacific Crest Trail, ce sentier forme la triple couronne des longues randonnées américaines. Il longe les Rocheuses à l'est, sur la ligne de partage des eaux entre le Pacifique et l'Atlantique, et il fait 5000 kilomètres. Une petite marche. « Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve », explique Clara Hughes, « mais je veux que cette magie de l'aventure reste dans ma vie. Sortir et aller connecter avec la nature, même si ce n'est que pour une petite journée, pour moi, ça n'a pas de prix. » C'était l'article « La longue randonnée » de Clara Hughes, écrit par Gabriel Bellan et paru dans la presse du 28 juillet.
Alors, je continue dans mes aventures d'abeilles. On a vu les abeilles robots tout à l'heure. Bien là, est-ce qu'on pourrait envoyer des essaims d'abeilles sur les hordes des djihadistes contre Al-Qaïda, par exemple? Bien, pas exactement. Bien, vous savez que l'insecte a la faculté de détecter des explosifs. Les abeilles sont déjà utilisées, étonnamment, dans les aéroports américains et dans les gares pour lutter contre les attentats terroristes. Et ça, je l'ignorais.
Des vraies abeilles?
Oui, mais elles se révèlent plus performantes, plus endurantes et plus efficaces que des chiens. Elles livrent le verdict enfermé dans un appareil équipé de caméras spéciales, zoomant à l'extrême sur leur tête. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas les voir. Lorsqu'elles détectent un explosif, les opérateurs le repèrent aussitôt au mouvement de leur langue. Dans les régions parsemées de champs de mines, comme la Croatie, de Mozambique, de Laos et autres, des abeilles bien entraînées parviennent à repérer des quantités d'explosifs des plus infimes. Et pour cela, elles ont été formées à tourner autour de nourriture enrobée de matière explosive. Donc, dans les aéroports, on les utilise. Je l'ignorais totalement.
Donc, si on voit des abeilles, il ne faut pas les tuer.
Non, mais ils sont enfermés là. C'est juste leur réaction qu'on analyse.
Okay.
Tung, tung, tung. Alors, c'est une imitation de ma part.
Oui,
dans l'étang voisin, le musicien fait vibrer la corde de son instrument d'un coup sec. Un concert se prépare. Saison des amours oblige, la performance de la grenouille verte mâle doit être à la hauteur. C'est entre autres par la qualité de son chant et l'attrait de son territoire que la femelle choisira son partenaire. Très commun au Québec et dans les maritimes, le ranidé à la peau verte, brune ou parfois bleue lorsque le pigment jaune lui fait défaut, se différencie par le pli qui part de son œil jusqu'au milieu du dos, absent chez le wawaron, et sa lèvre supérieure verte. On distingue le mâle de la femelle par la taille de son tympan, plus gros que l'œil. Lac, tourbière, rivière servent de domicile plutôt fixe, même en hibernation, bien au fond.
Alors, sur ces données, mes amis, on termine l'émission, hein? Eh bien, je remercie particulièrement pour la mise en onde de Mathieu Tessier. Les choix musicaux qui appartenaient cette semaine à Marie-Lalande, qui alterne avec Yvan à chaque semaine, on les remercie. Hein. J'en profite pour souhaiter des bonnes vacances à Marie et à Yvan, merci. Que je reverrai dans un avenir prochain.
En septembre.
C'est en septembre.
En septembre.
Oui, oui.
Il n'y a pas une chanson là-dessus?
Oui, tout à fait, de Gilbert Bécaud. Alors, pour nous rejoindre, vous pouvez aller sur le site canalm.org pour avoir accès à toutes les émissions ou sur vuesetvoix.com.
On est en reprise à 13h et à 21h. Hein? Vous pouvez nous réentendre.
Après l'heure bleue.
Là-dessus, on vous souhaite une très bonne semaine.
Bonne semaine.
Au revoir.